voix nue. Cette semaine, Zoé Sfez rencontre Alain Touraine. Ce soir, comprendre la société du travail.
Bonsoir Alain Touraine.
Bonsoir.
Bonsoir Alain Touraine. Nous vous retrouvons ce soir pour ce deuxième entretien pour parler finalement
on
de votre...
On s'habitue très vite à vous parler avec
vu,
vous.
Hein bah écoutez, moi je suis ravie de parler avec vous. On parle ce soir alors peut-être de votre entrée dans la sociologie en fait, finalement. C'est un petit peu ça le sujet de ce soir.
Bah, j'en étais resté d'ailleurs au moment où j'ai franchi un pas important. Dans ma vie, je crois que j'ai prononcé hier le nom d'Ernest Labrousse, qui était un historien économique, communiste, très célèbre, très travailleur, très quantitatif. Et je suppose, que cet homme s'est dit, moi, après avoir tellement fait d'histoire économique, je voudrais passer à l'histoire sociale. Et comme nous arrivions au centenaire de 1848, qu'on appelle d'habitude le printemps des peuples, parce qu'il y a eu des soulèvements sociaux et nationaux dans presque tous les pays d'Europe, évidemment en France, il a décidé de se consacrer, enfin de consacrer une partie de son temps au centenaire de 48. Il nous a même distribué des petits travaux à faire. Moi, j'ai eu à faire, c'était d'ailleurs le début de mes rapports avec ce pays que j'ai assez aimé à cette époque-là. Ensuite, il a vécu des heures bien tristes, qui était la Hongrie. Et on m'a dit, occupez-vous de la manière dont la presse française de 1848 a parlé de la Hongrie, de Kossuth, Petőfi, enfin tout ça.
Parce que là, on est d'accord que vous avez 20 ans et que vous êtes à l'école normale supérieure.
Je commence des études. Je commence des études d'histoire. Je me débarrasse de cette histoire-là parce qu'il y a un petit incident amusant pour moi. C'est que je travaillais avec un ami qui s'appelait Jacques Le Goff, qui est devenu un médiéviste célèbre et président de l'école des hautes études. Et le professeur à la Sorbonne, à qui nous avions soumis nos copies, nous colle. Moi, c'est pas grave, sociologue en Suisse, personne ne se souvient que j'ai été collé à mon certificat d'histoire du Moyen-Âge, mais pour Le Goff, le grand médiéviste français, être collé, et d'ailleurs, nous avions lu Marc Bloch avec beaucoup d'attention, et nous allons le voir, et il nous dit, mais écoutez, comment voulez-vous que je vous reçoive? Vous ne dites pas un mot de la chevalerie. Nous lui disons, si je puis dire, espèce d'idiot, la chevalerie, ça n'a pas grand-chose à voir avec la féodalité qui elle-même n'a pas grand-chose à voir avec le système seigneurial, histoire économique, histoire politique, histoire-là, ce sont quand même des choses séparées. Sapristi. Bon. Comment peut-on mélanger tout ça?
Il y avait déjà les ferments, donc, chez vous.
On était à bonne école quand même, Marc Bloch. Hey. Alors, nous, on défendait, si je peux dire, bien longtemps après sa mort, mais enfin, on défendait Marc Bloch. Bon.
Après cet épisode un peu fâcheux, vous vous retrouvez à travailler sur la Hongrie.
Voilà. Non seulement je travaille sur la Hongrie, mais on me donne un billet dont j'ai gardé un grand souvenir, parce que pour aller non pas à Budapest, notre réunion était à Debrecen, qui est la ville protestante de Hongrie, dans l'est du pays. On traversait toute la Hongrie et la Hongrie était occupée. Et donc il y avait des soldats russes partout, et qui buvait de la vodka. Et j'arrive à Debrecen, il y avait une université, je pense, où avait lieu notre congrès sur 48, et à l'entrée, il y avait, moi, habitué aux mœurs de l'université française, qui sont assez austères, il y avait une fille splendide, et qui disait, je vous accompagne, si vous le voulez, à la piscine. Pas mal. Et j'ai passé 3 mois en Hongrie, grâce aux Hongrois, dont beaucoup ont été assassinés ou incarcérés immédiatement après, parce qu'il y a eu de nouvelles élections, des combines de partis, prise de pouvoir par les communistes qui n'étaient pas des rigolos. Et j'ai fait un petit travail sur la réforme agraire en Hongrie. C'est un petit travail, un de mes petits. J'avais fait un petit travail avant sur une coopérative française d'ouvriers de production. Et j'ai eu envie, mais vraiment envie, de quitter ce monde universitaire et de me jeter dans ce qui, pour moi, petit lycéen, m'apparaissait comme la vie, c'est-à-dire la vie du travail industriel. D'autres l'ont fait beaucoup plus tard, mais moi, c'était là, en 47, ça ne vous évoque rien, mais c'est 47 et 48, c'est les grandes grèves révolutionnaires, du nord de la France en particulier, et c'est le moment où le gouvernement d'alors a créé une police particulière qui est devenue les CRS pour s'occuper des ouvriers révolutionnaires.
Et vous avez décidé, Alain Touraine, à ce moment-là, à votre retour en France, d'aller vous installer dans les mines à Valenciennes et de travailler.
Je suis rentré en France pendant la grève, j'ai eu beaucoup de peine à rentrer à Paris, parce qu'il n'y avait pas de train, Et je suis parti, appelons ça pour simplifier, dans la région de Valenciennes, dans une petite ville qui s'appelait encore, et qui s'appelle encore Rheims, qui est devenue d'ailleurs célèbre à un moment parce qu'on y a fabriqué les voitures du TGV. Et j'ai donc passé un certain nombre de mois là. J'ai acquis d'ailleurs un certain attachement au nord pour le ciel. Il y a des ciels magnifiques. Et un jour, il y avait comme gens dans cette mine, il y avait évidemment des Français, mais il y avait aussi des Polonais qui étaient là depuis assez longtemps. Et il y avait aussi des Allemands, dont d'ailleurs encore des prisonniers de guerre. Et moi, j'ai choisi les Polonais. Il fallait vraiment choisir parce que les Polonais et les Allemands se cassaient la gueule et même se tuaient. Et puis, je me suis toujours intéressé aux mineurs. D'abord parce que c'est la base de la société industrielle en Europe. Les mineurs chez qui j'étais logé, qui étaient des Français, étaient des gens qui n'avaient pas du tout des revenus importants. Hein. Et les gens disaient, les mineurs sont bien payés, pas tant que ça. La vie n'est pas belle, c'est l'hiver, puis le printemps, très mal payé, parce que mes forces physiques ne sont pas suffisantes pour un vrai mineur, ce qu'on appelait un ouvrier, c'est-à-dire celui qui fait du charbon. Et moi, j'étais celui qui évacue le charbon, évite que ça s'entasse. C'était pas haut, hein, les mines du Nord, c'est pas haut. C'était de l'ordre de 90 centimètres, si vous voulez. Donc, il faut vraiment être en train de ramper tout le temps. Et je travaillais beaucoup la nuit, je dois dire. Ce qui fait que je pouvais revenir le matin en traversant la forêt Saint-Amand. Et un jour, je décide d'aller me promener jusqu'à la ville voisine qui était Valenciennes. Et là, je découvre un livre qui s'appelait « Les problèmes humains du machinisme industriel » de George Friedman. Livre magnifique, livre d'une intelligence extrême, d'une érudition extrême, parce qu'il avait pu lire les tout débuts de la société industrielle qui étaient des travaux faits aux États-Unis juste avant la guerre. Alors, au moment de la libération, la France, l'Allemagne, l'Italie beaucoup, la Belgique, l'Angleterre, enfin, tout le monde étudie les problèmes du travail. Et sous la direction de George Friedman, qui devient alors le président de l'Association internationale de sociologie. Et il me demande de prendre en charge la principale recherche qu'il voulait lancer, qui était consacrée aux usines Renault. Et c'est comme ça que j'ai passé au total, mais là comme sociologue, et je suis entre-temps rentré à l'école normale, qui était une brave maison, et où il y a en particulier la dame qui s'occupait du linge des élèves m'accueillait gentiment, et j'ai fait une étude qui a été bien publiée par CNRS, et qui était sur le passage de la mécanisation à l'automatisation, et c'est resté pendant une vingtaine, une trentaine d'années un peu classique de parler des phases A, B, C d'Alain Touraine. Bon.
Alors c'était quoi ces phases A, B, C d'Alain Touraine?
C'était ça, et c'était très intéressant. C'était ce que j'appelais phase A, c'était le travail qui repose encore sur le métier. Et vous allez voir pourquoi c'est important. La phase B, c'est la destruction du métier par l'organisation du travail, le management. Et la phase C, c'est la recomposition par l'automatisation. Pourquoi c'est important? C'est pas à cause de ça. Je suis pas un ingénieur. Mais enfin, c'était fait très sérieusement. J'ai vu pratiquement tous les postes de travail de chez Renault pendant un an et demi, hein, un par un. Je faisais le boulot sérieusement. Et ensuite, j'ai été habité en face de Renault à Billancourt. Bon. Mais pour moi, ça m'a été extrêmement important, parce que ça, c'est une chose à laquelle j'attache beaucoup d'importance dans ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai fait, nous sommes trois à l'avoir fait, une étude sur un thème qui était très très peu étudié, et en particulier qui n'était pas par les historiens ou les sociologues ou les économistes marxistes, qui était l'étude de la conscience de classe ouvrière. Il y a un marxiste communiste, ancien ministre d'ailleurs, allemand, philosophe, George Lukács, qui a surtout développé le concept d'aliénation, bon, qui a étudié ça, et puis il y a un Allemand qui est devenu anglais, et même lord anglais, qui s'appelait Dahrendorf, Ralph Dahrendorf, qui a changé de nationalité, qui a écrit un livre, Klassen und Klassenbewusstsein, la classe et la conscience de classe, in der industriellen Gesellschaft, dans la société industrielle, et puis moi qui y ai passé plusieurs années de ma vie pour en faire ma thèse de doctorat, et où j'ai fait environ 2000 interviews de chacun, 2, 3, 4 heures, en me baladant dans toute la France, avec des moyens un peu élémentaires, puis les tout débuts de ce qu'on faisait, c'était un type de l'INSEE qui m'aidait à apprendre ses méthodes pour faire les statistiques et faire les calculs. Très bon. Et je suis arrivé à une chose, je m'excuse de dire ça, mais dont je reste persuadé que c'est une idée importante. Alors, j'ai distingué la vraie conscience de classe, que j'appelais la conscience de classe sociale, et qui était essentiellement développée chez les métallos, et surtout les métallos, disons, qualifiés, les ouvriers de métier, qu'on appelait quelquefois les règleurs, ou les ouvriers d'entretien, ça s'appelait aussi comme ça, ce qu'on appelait dans les usines ordinaires les P2, les P3, et puis séparer les mineurs qui avaient une conscience essentiellement économique et la souffrance, parce qu'ils crevaient, et du grisou, et des maladies, la tuberculose, etc. Bon. Et donc j'ai dit, la conscience de classe ouvrière, ce n'est pas la lutte contre le capitalisme comme force économique, c'est la défense du métier ouvrier, de l'autonomie ouvrière, contre le management, contre l'invasion de l'autonomie ouvrière, de l'autonomie du métier ouvrier, par les systèmes d'organisation du travail, souvent appuyés sur des données scientifiques complètement fausses. Frederick Winslow Taylor, qui était le grand homme, disait « There is one best way », une seule bonne manière de faire les choses, et c'était bidon, bidon. Honteux même. Et Friedman avait fait partie avec des Français, des Anglais, des Américains, des gens qui avaient dénoncé ce côté bidon et d'exploitation du travail. Mais voyez-vous, c'est pas la même chose de dire le conflit est un conflit économico-social et l'autre de dire c'est un conflit socio-professionnel. Si vous voulez, la grande différence, d'un côté, vous mettez en cause le système économique, de l'autre côté, vous mettez en cause l'expérience personnelle, l'autonomie, les valeurs, la liberté, les droits de l'homme. Pour parler, on parlait pas comme ça à cette époque-là, on a parlé des droits de l'homme avant et après l'époque industrielle, mais pas pendant.
Bon. Pas pendant, pour des raisons effectivement assez évidentes que vous rappelez dans votre livre La défense de la modernité.
Oui, qui sont d'ailleurs des choses tout à fait importantes. Bon, voilà. Alors, ceci, j'ai passé des années dans toute la France, vivant évidemment très mal. Entre-temps, d'ailleurs, j'ai été passé un an aux États-Unis, où j'ai vécu matériellement aussi très mal, très mal payé. Pendant que j'étais aux États-Unis, j'ai commencé, on m'a dit où voulez-vous aller? J'ai dit sans hésiter Harvard, parce que c'était d'une part l'université numéro un, et d'autre part le centre de la sociologie moderne américaine. Et je voulais voir le grand chef de la sociologie américaine qui s'appelait Talcott Parsons à Harvard. Et je suis arrivé, mon anglais était assez mauvais, comme tous les Français, et je suis tombé fou de rage.
Qu'est-ce qui vous a pas plu dans cette sociologie américaine ?
Parce que c'était la sociologie d'une société qui avait beaucoup de raisons d'être consciente de soi, mais qui était consciente de soi d'une manière insupportable.
Qu'est-ce qu'elle avait
d'insupportable. Bah, c'était l'après-guerre, ils avaient gagné la guerre, ils étaient riches, ils étaient vainqueurs, ils étaient la coqueluche du monde, très bien. Mais enfin, ça n'empêchait pas qu'il y avait, en Amérique comme ailleurs, des conflits du travail, des conflits raciaux, des conflits, etc., etc., enfin, soyons sérieux. Et ça a été une grande préoccupation dans ma vie, parce que pendant des années après, j'essayais de retrouver Parsons pour avoir une engueulade avec lui.
Et vous l'avez eu, cette engueulade
avec
Parsons ?
Mais oui,
quand ça ?
Je l'ai eu 10 ans après, 8 ans après, je ne sais pas où, à Tokyo.
Parce que vous, Alain Touraine, à l'époque, comment est-ce que vous définissiez votre sociologie à vous ?
Quand j'étais petit comme ça, j'avais créé mon petit mot pour me définir. Je m'appelais actionnaliste. J'ai laissé tomber ce mot. Mais sociologie de l'action, j'ai un livre qui s'appelle Sociologie de l'action, qui est devenue mon autre thèse, la conscience ouvrière, une thèse. À cette époque-là, les gens sérieux faisaient 2 thèses, écrivaient 2 livres et pas 1. Alors moi, j'étais un type sérieux. Voilà. Simplement pour vous raconter une belle chose, parce que dans l'université, il n'y a pas tellement de belles choses. Et Friedman me dit, après que j'ai fini mon affaire Renault, il me dit, écoutez quand même, faut que vous ayez un métier, faut quand même vivre. Donc, il faut passer l'agrégation.
L'agrégation de quoi ?
D'histoire. Mais il n'y avait pas de sociologie. Moi, je lui dis, non, ça ne m'intéresse pas. Il me dit, écoutez, non, lui, ça ne m'intéresse pas. Alors, il me dit, écoutez, essayez une fois. Et alors là, il a une phrase magnifique. Ça sauve la vie d'un homme, il ne sera pas en enfer. Il me dit, écoutez, si vous êtes reçu à l'agrégation, je vous prends directement au CNRS. Et si vous n'êtes pas reçu, je vous prends aussi. Formidable.
Formidable.
Un type comme ça, c'est embrassé.
Georges Friedman, philosophe de formation.
Philosophe de formation, qui était comme job, il est devenu inspecteur général d'enseignement technique, parce qu'il s'est mis à s'intéresser au travail. Il était d'ailleurs fils de banquier et presque communiste. Et j'ai donc passé cette fameuse agrégation, et là, petit amusement au passage, au moment de la proclamation des résultats, le président était Fernand Braudel, président de l'agrégation, dont le plus grand historien français. Et Braudel dit à ses collègues, écoutez, je suis embêté, parce que nous avons 2 étudiants qui sont tous les 2 normaliens, mais il y a une petite différence de notes. Personne n'a jamais su en faveur de qui, et ça n'avait d'ailleurs pas grande importance. Mais ils sont amis, ils ont préparé l'agrégation ensemble. Écoutez, je vous en prie, je demande à l'un d'entre vous de bien vouloir changer une note, parce qu'il faut qu'il soit ex aequo.
C'était qui ce camarade ?
C'est Le Goff.
Toujours
Jacques Le Goff. Parce que nous partageons le même bureau, la même turne, comme on disait à cette époque-là. Bon, c'était quand même des bonhommes, hein.
Georges Friedman qui vous prend avec ou sans l'agrégation et Fernand Braudel qui veut que vous ayez les mêmes notes que votre ami.
Ah, écoutez, quand même, c'est des gens formidables.
À cette période, Alain Touraine, où vous avez donc publié ces 2 livres, ces 2 thèses et où vous avez mis un pied très important dans ce monde du travail, vous découvrez votre métier, les méthodes qui vont avec, en même temps que ce monde du travail.
Tout à fait, mais à ce moment-là, c'est un peu après, on vient de passer 68, qui a été très important, je dirais honnêtement, le seul professeur d'université français qui a compris ce qui se passait. Mon livre a été publié 3 mois après. Mes amis, Edgar Morin, Claude Lefort, Cornelius Castoriadis, ont fait ensemble un livre qui s'appelle La Brèche, c'est vous dire qu'ils étaient intéressés, qu'ils ont compris l'importance des choses, mais La Brèche, c'est pas aussi important que ce que j'ai voulu indiquer, qui était le passage des revendications de base fondamentale du domaine social au domaine culturel. J'avais 50 ans avant compris ça quand même. Pas complètement, il y a à côté de la plaque le type. Bon. Et tout ça dans un climat de grande hostilité.
Pourquoi de... donc ? On voulait dire de.
Mais la France était hostile. La France fait semblant aujourd'hui, mais ça s'en dit. On appelait ça les événements. J'ai appris une chose très intéressante à ce cas-là. Une fois, un de mes amis, sociologue, était entré au cabinet de Perfit. Perfit était avait été mon camarade quelques mois à l'école normale avant de faire l'ENA. Bon, Perfit était ministre de l'enseignement supérieur à ce moment-là. Et il faisait son métier de ministre du gouvernement. Bon, et il essayait de calmer tous ces gens-là. Et alors, en particulier, cet ami, je ne veux pas dire son nom, qui est professeur de sociologie, avait convaincu Perfit d'une formule. C'est une douzaine d'enragés. Le mot « enragé » était employé pour, en particulier, Cohn-Bendit et ses petits copains de ce qu'on appelait le mouvement du 22 mars. Bon, douzaine d'enragés. Un jour, je vois un type qui passait pour être fort intelligent, qui était un professeur de géographie. Et il me répète la formule « une douzaine ». Nous étions, ce jour-là, devant les Berlinois, dirigés par Dutschke. Ils étaient 2000 ou 3000 devant nous, à 5 mètres. Je lui dis, douzaine, vous avez 2000 types devant vous. Mais il m'a dit, allons, quand même, ne croyez pas ça. Enfin, il était complètement con de passer à côté de la réalité historique. Les préjugés, c'est magnifique. Quand on veut pas voir, on voit pas.
Bon. Mais alors, au moment de mai 68, Alain Touraine, ça fait déjà près de 18 ans que vous pratiquez la sociologie. Comment est-ce que vous l'avez lu, alors, ce mouvement ? Parce que certains de vos collègues considèrent que finalement, mai 68 est une espèce de brèche, mais pas un véritable accouchement.
Je ne sais pas si c'est un accouchement. Ça pouvait difficilement être un accouchement d'ailleurs, parce que c'était une université de garçons. Mais à part ça, j'avais eu la chance, la deuxième année où j'y étais, j'étais devenu directeur du département
à Nanterre
de sociologie de Nanterre, et j'avais eu la chance d'avoir une petite grève dirigée par un type d'ailleurs adorable et très intelligent qui est devenu assez connu comme journaliste, qui s'appelait Philippe Mayer, et c'est lui qui dirigeait la grève, comme ensuite Cohn-Bendit a dirigé la grande, la vraie. Donc j'étais préparé, j'ai même d'ailleurs, parce que tout le monde dit que personne ne savait, moi, j'ai fait deux grands articles dans Le Monde pour dire tout à fait au début de l'année de 68 ce qui allait se passer. J'ai annoncé le grand mouvement étudiant 3 ou 4 mois à l'avance. Bon, ben, c'était pas tellement difficile à faire. Et ce qui m'avait frappé pour des raisons, je ne sais pas, mais profondes, c'est que par rapport à moi qui avais quand même assez bonne connaissance du mouvement ouvrier, je me suis dit, tiens, c'est quand même quelque chose d'éminemment neuf que ce soit le genre de vie, la sexualité, dont on a exagéré l'importance dans leur mouvement, mais enfin, qui était quand même un thème. Le thème de la jeunesse, le thème de tas de choses, qui était centré sur l'acteur, sur l'individu, sur la jeunesse aussi. Alors, j'avais étudié le mouvement étudiant américain de 4 ans avant à Berkeley, où la drogue jouait un rôle important, la sexualité un rôle important. Et donc, j'étais quand même préparé, parce que j'avais l'esprit un peu ouvert, quoi, tout bêtement. Et donc, j'ai dit, mais nous passons d'un mouvement dont la logique est économique à un mouvement dont la logique est culturelle. C'est pourquoi je vous dis, demain, ça sera les femmes, et après-demain, ça sera le problème du multiculturalisme et les migrants. C'est quand même des choses fondamentales. Naturellement, je n'oublie pas, et les gens qui ont suivi tout ça en 2011, qui sont les pays arabes et le Chili, qui ont fait des grèves importantes les uns et les autres, qui se sont recentrés sur la question de la personne, la question de la culture, la question de la liberté, la question du corps, la question de la sexualité, etc. etc.
La question du sujet, qui est devenue une question centrale d'ailleurs de votre sociologie. Voilà. Mais pour conclure ce deuxième entretien, de cette période où vous avez travaillé sur le travail, où vous avez vécu dans les mines, où vous avez côtoyé beaucoup d'ouvriers, où vous avez appris à la fois votre métier de sociologue, qui était à ce moment-là embryonnaire, et vous avez tiré vos premiers renseignements de ce monde du travail. Qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui? Qu'est-ce qui, dans ce que vous avez écrit ou compris à l'époque, vous paraît pertinent toujours?
L'essentiel. L'essentiel. Le monde moderne, ce qu'on appelle le monde moderne, que vous pouvez faire remonter à la haute antiquité. Le monde moderne, c'est les sociétés qui, au lieu de bouffer ce qu'elles produisent, ce qui leur permet de vivre avec de très petits moyens, investissent par le travail, et le travail change le monde, les change eux-mêmes, le change leur vision d'eux-mêmes et leur vision de leur environnement. Et ce qui fait la structure de ce qu'on appelle une société moderne, c'est l'alliance de trois choses. L'expérience vécue d'un travail matériel. Deuxièmement, les conflits sociaux autour du travail. Si vous transformez une partie des ressources en investissement, il y a les gens qui contrôlent l'investissement et les gens qui louent leur travail. Que ça s'appelle des classes ou pas des classes, ça change selon les périodes, etc. Et la troisième chose, c'est que à ces réalités matérielles et sociales, il y a aussi des associations culturelles, c'est-à-dire que selon le type de travail collectif qu'on fait, nous voyons naître en nous, se transformer en nous, notre capacité, non pas de créature, mais de créateur, d'inventeur. La fameuse créativité dont on parle maintenant, moi dont je parle depuis 50 ans, ou 70 ans, je ne sais plus. Et que le travail, c'est-à-dire l'économie, la culture, les conflits sociaux et politiques, tout ça, c'est intimement lié, c'est le cœur des choses. C'est le cœur de la société moderne. Et venez pas dire que c'est fini, c'est foutu. Vous voulez quoi? Vous voulez revenir dans le désert pour faire comme les sociétés qui n'avaient pas d'investissement? Non. Et j'ai probablement trop longtemps, je suis resté attaché à cette image de la société industrielle. J'étais bien placé pour savoir aussi les souffrances qu'il y a dans la société industrielle, les conflits de classe, etc. J'étais vraiment pas du tout en dehors de ça, mais pas du tout, du tout. Y compris pour les étudiants. Bon, alors que les gens voyaient des petits rigolos qui voulaient baiser. Bon, ben non, c'est aucun point de sérieux. Mais,
trop longtemps.
Je suis resté trop longtemps attaché à l'image proprement industrielle, parce qu'en effet, j'y avais passé une bonne partie de ma vie. Et j'ai commencé, je ne peux pas dire quand j'ai vraiment, mais je pense que c'est dès mai 68 que j'ai commencé à me dire « et après ».
Et après, nous en parlons demain, justement, de cette période. Il y a eu une période vraiment sombre, où vous avez été, vous l'avez dit, perdu, mais qui est une période intéressante. Nous en parlons demain avec vous, Alain Touraine. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Zoé Sfèze avec Alain Touraine. À voix nue, réalisation Véronique Lamandour, prise de son François Rivalan, Romain Luquiens, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne ce podcast sur franceculture.fr.